إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم دونك Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, rahimahullahu ta'ala, dit dans son épître Thalathat al-Usul, les trois fondements, wa anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha mithlu al-islam wal-iman wal-ihsan wa minhu ad-du'a wal-khawf wal-raja wat-tawakkul wal-raghba wal-rahba wal-khushu' wal-khashya wal-inaba wal-isti'ana wal-isti'adha wal-istighatha والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. Donc il nous dit, quant aux différentes formes d'adoration comme l'islam, la soumission, la foi, la bienfaisance, ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, la demande d'aide, la demande de protection, la demande de secours, le sacrifice, le serment et autres formes d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir sont toutes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, après que l'auteur ait parlé de l'unicité de l'adoration, après nous avoir expliqué qu'il est du devoir du serviteur d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé et démontrer que celui-ci est intimement lié à l'unicité de la Seigneurie, il a évoqué certains exemples à travers lesquels apparaît plus clairement le sens de l'unicité de l'adoration, qui lui consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration, à lui vouer un culte exclusif et croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul endroit d'être adoré sans associé. Ainsi, dans ce paragraphe, l'auteur va mentionner certaines sortes d'adoration qu'il va accompagner à chaque fois d'une preuve authentique du Coran ou de la Sunna. Mais avant cela, il faut savoir que l'adoration dont nous avons cité la définition précédemment est de plusieurs catégories. Il y a les actes du cœur, tels que la peur, l'espoir, l'amour et d'autres, dont on citera. Il y a aussi les actes apparents, tels que les actes du corps, comme la demande d'aide, la demande de protection, la demande de secours, le sacrifice, le serment pieux, de même que l'inclinaison, la prosternation et autres actes d'adoration. De ce fait, toutes les formes d'adoration citées, ici dans ce paragraphe, doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Mais aussi les autres que l'auteur n'a pas évoqué ici, et qui sont nombreuses. C'est d'ailleurs pour cela que l'auteur a dit « Et autres formes d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir sont toutes pour Allah Azza wa Jal. »« Wa ghayru dhalik min anwa'i al-ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillah. » Non. Ensuite, l'auteur nous dit « Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. » La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Dans le cours numéro 5, nous avions vu précédemment que, selon l'avis de certains pieux prédécesseurs, les mosquées sont construites pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Ainsi, elles ont été nommées car elles désignent tout les endroits dans lesquels on se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la prosternation est certes le plus immense et le plus noble pilier de la prière. Aussi, nous avions vu que selon l'avis de certains autres pieux prédécesseurs, les mosquées désignent ici les parties du corps sur lesquelles la personne se prosterne, c'est-à-dire les membres sur lesquels elle doit obligatoirement se prosterner pendant la prière, qui elle aussi, c'est-à-dire ses membres, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est alors interdit de se prosterner dessus pour autre qu'Allah azza wa jal, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Non. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » N'invoquez donc personne avec Allah, c'est-à-dire n'invoquez pas autre qu'Allah Azza wa Jal, n'adorez rien en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a donc interdit à l'être humain le polythéisme globalement et d'invoquer qui que ce soit avec lui plus précisément. Ensuite, l'auteur nous dit فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Aussi, nous avions vu dans le cours numéro 6 que le polythéisme est de deux sortes principales chez les gens de la sunna et du consensus. Le polythéisme majeur, qui, d'après l'unanimité des savants, excommunie de l'islam la personne qui s'en rend coupable. De même que celui-ci entraîne la nullité de la totalité de ses œuvres et le condamne à un séjour éternel en enfer s'il meurt sans s'en être repenti. Ce type de polythéisme est celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et a révélé les livres divins afin de le combattre et y mettre un terme. Et c'est à celui-ci que l'auteur fait allusion ici lorsqu'il dit « Quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. » فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Aussi, nous avions vu que la deuxième sorte de polythéisme est le polythéisme mineur, qui est le plus grave péché majeur. Mais celui-ci n'excommunie pas de l'islam la personne qui s'en rend coupable. Il diminue sa foi, il entraîne uniquement la nullité de ses œuvres ayant été entachées par celui-ci et ne le condamne pas à un séjour éternel en enfer s'il meurt sans s'en être repenti. Et lorsque l'auteur dit ici est un polythéiste mécréant, فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ, c'est parce que entre le polythéisme et la mécréance, il y a ce qu'on appelle des généralités et des particularités. Cela veut dire que la mécréance est plus générale que le polythéisme, qui lui donc est plus particulier. Ainsi, tout polythéiste est mécréant, alors que tout mécréant n'est pas forcément polythéiste. Comme par exemple, celui qui va donc délaisser la prière selon l'avis de certains savants. Il va être mécréant sans pour autant être polythéiste. Ou encore celui qui va insulter la religion de l'islam, ou alors insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on verra donc l'explication en détail dans l'explication des annulatifs de l'islam. Hein? Cette personne-là est certes mécréante, mais elle n'est pas polythéiste. Non. Ensuite, l'auteur nous dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Donc, la preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. À partir de ce moment, l'auteur commence à énumérer les preuves concernant les différentes catégories d'adoration qu'il a citées précédemment dans sa parole lorsqu'il dit quant aux différentes formes d'adoration comme l'islam, la soumission, la foi, la bienfaisance ainsi que l'invocation. Wa anwar al-ibadati التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء jusqu'à la fin donc des adorations qu'il a mentionnées. Et ici on voit donc que le shir commence en citant les preuves pour l'invocation. Il ne cite pas donc les preuves pour l'islam, la soumission, la foi ainsi que la bienfaisance. Car l'explication détaillée de ces sortes d'adorations viendra dans l'explication du deuxième fondement précisément. Donc, l'explication de ces trois adorations, on le laisse pour plus tard, bi'idhnillahi ta'ala, afin de se concentrer aujourd'hui sur l'explication de ce passage. Et quand on abordera donc le deuxième fondement, bi'idhnillahi ta'ala, nous verrons en détail les explications avec leur argumentation. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc dit ici, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, l'invocation, on voit ici donc que c'est une adoration qui est interdite d'être vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on prend la définition de l'adoration, comme nous l'avons cité précédemment, nous voyons qu'elle s'applique ici au terme invocation. Et quand il dit sans avoir la preuve évidente de son existence, la burhan lahu bih, ceci est une preuve qui démontre que celui qui invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui n'a en réalité aucun argument appuyant son acte. Il est impossible et il n'existe aucune preuve appuyant la possibilité de l'existence d'une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est impossible. C'est pour ça ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confirmé cela en disant « La burhana lahu bih » sans avoir la preuve évidente de son existence. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ » aura à rendre des comptes à son Seigneur, car il est impératif qu'Allah subhanahu wa ta'ala soumette son serviteur à son jugement pour cet acte, pour celui donc qui lui associe, et qu'il lui donne pour demeure éternelle l'enfer, s'il meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innahu la yuflihu al-kafirun » en vérité, les mécréants ne réussiront pas. Ceci est le passage du verset donc qui démontre que ce qui a précédé, c'est-à-dire le fait de vouer une partie de l'adoration, en l'occurrence ici l'invocation, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est l'agissement des mécréants. Ce qui nous fait comprendre donc que l'agissement des musulmans est de vouer un culte exclusif, de vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, si Allah subhanahu wa ta'ala déteste et n'agrée pas le fait qu'on lui associe quelqu'un dans l'invocation, dans cette adoration, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée qu'on invoque que lui seul, sans associé, qui est donc la définition de l'adoration, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, comme je vous disais, ceci démontre que l'invocation est une adoration qui doit être vouée exclusivement et sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. D'ailleurs, il me semble que c'était dans le cours numéro 6 que nous avions évoqué la définition religieuse de l'adoration, en mentionnant la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah lorsque il avait dit que l'adoration est un nom de portée générale qui englobe toute parole ou acte apparent ou caché qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc ici, comme je vous disais, si Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas et n'aime pas le fait qu'on lui associe quelqu'un dans l'invocation, fait que Allah subhanahu wa ta'ala, à l'inverse, aime et agrée qu'on l'unifie et qu'on lui voue cette invocation exclusivement à lui seul, sans associé. De ce fait, par rapport à cette définition, elle s'applique totalement à l'invocation et fait de elle une adoration qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Il est interdit de la vouer à autre que lui. Aussi, il faut savoir que l'invocation se divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle Dua al-ibada, l'invocation d'adoration, qui elle consiste à ce que le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala par pure adoration, c'est-à-dire en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il l'invoque, de même qu'il craint son châtiment. Et ce type d'invocation n'est valable que si elle est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Le fait de la vouer à autre que lui est une forme de polythéisme majeur qui excommunie de l'islam la personne qui s'en rend coupable. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite le châtiment suivant. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Naam. Aussi, la deuxième catégorie d'invocation, c'est l'invocation de demande, du'a al-talab, ou alors du'a al-mas'ala, qui elle consiste à demander que l'on réponde à un besoin. Ce type d'invocation est aussi une adoration si elle est dirigée vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, car elle implique la reconnaissance du serviteur. Elle implique donc sa reconnaissance d'être pauvre face à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a besoin de demander refuge auprès de lui. De même que cela implique que ce serviteur a la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable et généreux et clément envers son serviteur. Cependant, ce type, donc cette catégorie d'invocation, il est permis de l'orienter envers un de ses semblables parmi les créatures. Comme par exemple le fait de dire « Oh un tel, donne-moi à manger. Oh un tel, passe-moi ceci, donne-moi à boire. » Et ainsi de suite. Et cela, à condition que celui à qui cette demande est faite soit premièrement vivant. De ce fait, il est interdit de demander à un mort. Deuxièmement, que celui-ci soit présent. Et lorsque l'on dit présent, c'est-à-dire qu'il est interdit de demander à quelqu'un qui n'est pas en capacité d'entendre cette demande. Ça ne veut pas dire forcément que cette personne soit présente dans la même pièce, car il se peut des fois que la personne soit présente dans le même lieu sans pour autant qu'elle entende cette demande. De ce fait, il faut que cette personne puisse entendre cette demande, qu'elle soit présente. Et la troisième condition pour pouvoir orienter ce type de demande envers un semblable parmi les créatures, c'est que celui-ci soit en capacité de répondre à cette demande. Il est alors interdit de demander à quelqu'un qui n'est pas en capacité d'y répondre. Donc ici, on voit que les invocations, elles sont de deux types, soit des invocations d'adoration, du'a ou l'ibada, ou alors des invocations de demande, du'a ou l'mas'ala. De ce fait, quiconque invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant une chose que seul Allah azza wa jalla est capable de réaliser, fait que cette personne est un polythéiste mécréant. Et ça, que l'être invoqué soit vivant ou mort. Le fait de demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de réaliser, fait que cette personne devient un polythéiste mécréant, et ça, que la personne à qui il demande soit vivante ou morte. Et si une personne invoque un être vivant qui est présent et en capacité de réaliser ce qui lui est demandé, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Par contre, quiconque fait ce genre de demande à un mort ou à un être absent, il est alors aussi un polythéiste mécréant. Car le fait d'invoquer un mort ou cet être absent indique que la personne en question croit que celui qui l'invoque, celui à qui il fait cette demande, il a un certain pouvoir sur la création. Ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. De ce fait, il devient un polythéiste mécréant. Non. Ensuite, l'auteur nous dit وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَى مُخُ الْعِبَادَ. De même, il y a le hadith suivant, l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Ce hadith, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a été rapporté en ces termes par l'imam al-Tirmidhi dans son Sunan, ainsi que d'autres. Mais celui-ci est faible, comme l'a démontré Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala, dans nombreux de ses ouvrages, parmi eux sa révision de Sunan al-Tirmidhi, justement. Car on trouve dans sa chaîne de transmission un rapporteur qui est Ibn Abi Lahira. Ce rapporteur, il a été qualifié de faible par les savants de la critique et l'éloge. De ce fait, le fait que l'on trouve donc un rapporteur qui ait été qualifié de faible dans la chaîne de transmission fait que ce hadith-là n'est pas accepté et est considéré de faible par les savants du hadith. Non. Cependant, l'imam al-Tirmidhi a aussi rapporté dans son sunan, lui ainsi que d'autres, le hadith d'après Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation, c'est l'adoration. » « Ad-du'a huwa l'ibada. » Et le hadith, en ces termes, lui, a été authentifié par Cheikh Muqbil, ainsi que Cheikh Al-Albani et d'autres. Donc le hadith authentique, c'est « L'invocation, c'est l'adoration. » « Ad-du'a huwa l'ibada. » Par contre, le précédent qui est mentionné par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, ici, en argumentation, « Ad-du'a mukhu l'ibada. » Celui-ci est faible par rapport à la présence d'un rapporteur qui a été qualifié de la sorte par les savants de la critique et l'éloge. Ensuite, l'auteur nous dit « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ » Et la preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et votre Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et votre Seigneur dit « Appelez-moi » « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي » Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, on voit ici que c'est un ordre, « Appelez-moi ». Il ordonne qu'on l'invoque. Et toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son serviteur est forcément une adoration. Aussi lorsqu'il dit « Je vous répondrai, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, donc « Astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati » C'est-à-dire que ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de l'adoration, et ici donc de l'invocation, d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné donc que le fait que maintenant ces personnes-là s'enorgueillissent vis-à-vis de l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, fait qu'ils entreront bientôt dans l'enfer humilié. Sayyid khuluna jahannama dakhilin. Non. Et les savants de l'exégèse du Coran, les savants du tafsir, ils ont divergé quant à la sorte d'invocation qui est voulue dans ce verset. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Appelez-moi, ud'uni ». Ils ont divergé, est-ce que c'est l'invocation d'adoration, du'a ou al-ibada, ou alors c'est l'invocation de demande, du'a ou al-mas'ala. Comme nous l'avons mentionné précédemment, elles sont de deux types. Donc ils ont divergé, est-ce que, ici, l'invocation qui est voulue, c'est du'a ou l'ibada, l'invocation d'adoration, ou du'a ou al-mas'ala, l'invocation de demande. Mais l'avis prépondérant, le plus juste ici, est que les deux sortes d'invocations sont comprises dans le verset, que ce soit l'adoration d'invocation ou l'adoration de demande. Car comme nous l'avons vu précédemment, l'invocation de demande, elle aussi, peut être une adoration, si elle est dirigée donc du serviteur vers son Seigneur. Non. De ce fait, on voit que ce noble verset indique lui aussi que l'invocation fait partie de l'adoration. Car dans le cas contraire, il n'aurait pas été correct qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise « Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. »« Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin » De ce fait, il est interdit de vouer une partie de cette adoration, de cette invocation, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, le shaykh nous dit « وَالدَّلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » La preuve concernant la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans la parole d'Allah azza wa jal, « N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. » La peur, ça correspond au sentiment que l'on éprouve à l'approche d'un événement pouvant causer un préjudice ou un mal. Et cette peur, elle doit être éprouvée à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son châtiment dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de le craindre et a interdit de craindre autre que lui, tels que les alliés de Shaitan. Aussi, il faut savoir que les savants ont divisé la peur en plusieurs catégories. Ils ont dit donc que la peur était de plusieurs catégories. Parmi elles, il y a donc ce qu'on en appelle la peur d'adoration, khawful ibad, qui s'agit, ou du moins lorsque l'on parle de la peur d'adoration, il s'agit de la peur par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Le fait de l'avouer à un autre qu'Allah azzawajal est une forme de polythéisme majeur qui excommunie de l'islam la personne qui s'en rend coupable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit: wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Naam. Et cette peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut être louable comme elle peut être blâmable. Elle est louable lorsqu'elle empêche la personne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de façon telle qu'elle le pousse à accomplir les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandés et délaisser les interdits divins qu'Allah lui a interdits. Si ce résultat il se concrétise, le cœur donc s'apaise et se réconforte. La réjouissance du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espérance en sa récompense vont l'emporter. En revanche, cette peur, elle peut être blâmable quand celle-ci pousse le serviteur à désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'affliger au point de se renfermer sur lui-même, voire carrément de se laisser aller à la désobéissance par profond désespoir, comme c'est le cas de certains. Qu'Allah nous en préserve, ayyadallah, wa iyyakum. Ensuite, parmi les catégories de peur que les savants mentionnent, il y a la peur qui est considérée comme étant de l'association, al-khawf shirki. Comme, par exemple, celui qui craint une créature, que celle-ci soit vivante ou morte, en ayant la conviction que cette créature a la capacité de lui nuire, de par sa propre volonté. Comme c'est le cas de ceux qui adorent l'occupant d'une tombe. Les gens qui adorent, par exemple, les tombes ou l'occupant d'une tombe, ils font cela en ayant la conviction que celui qui est dans cette tombe a la capacité de l'unir de par sa propre volonté. Ainsi, ils accomplissent des actes d'adoration et s'abstiennent de faire certaines choses par peur de cet occupant de cette tombe. Cela est ce qu'on appelle donc al-khawf al-shirki, la peur qui est considérée donc comme étant de l'association. Il y a aussi la peur qui, elle, est considérée comme une désobéissance. Al-khawf, ou alors khawf al-muharram, al-khawf al-ma'siyah. Il s'agit là de la peur qui pousse à délaisser un devoir ou transgresser un interdit, par crainte d'une créature vivante, mais sans avoir la croyance que celui-ci a la capacité et la possibilité de lui nuire de son propre chef. Ça veut dire il sait que cette personne-là, si elle va lui nuire, elle ne lui nuit que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas par sa propre volonté à lui. Taïeb. Indépendante. Quand on parle de sa propre volonté, on parle de sa propre volonté indépendante. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit d'ailleurs à ce sujet: Fala tarshaun nas warshauni. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Ainsi, cette peur n'est pas du polythéisme, car la personne, elle ne délaisse pas ce devoir, de même qu'elle ne transgresse pas cet interdit, en croyant que cette créature vivante qu'elle craint peut lui nuire de sa propre volonté. Taïb. Aussi, les savants mentionnent donc parmi les sortes, les catégories de peur, celui qu'on appelle khawf al-tabi'i, ou alors khawf al-'ad, qui est la peur donc naturelle, comme le fait d'avoir peur d'un ennemi, ou alors d'une bête féroce, ou du feu, ou de la noyade, ou autre chose dont certaines personnes peuvent avoir peur. Ce type de peur n'est pas blâmable. Allah Azzawajal, il a dit au sujet de Moussa, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Cependant, si cette peur devient la cause du délaissement d'un devoir ou de la transgression d'un interdit, alors, dans ce cas-là, elle entre dans la catégorie précédente, la peur qui est considérée comme une désobéissance. Khawf al-muharram. Al-khawf al-ma'asiyah. Car toute chose menant au délaissement d'un devoir ou à la transgression d'un interdit est elle-même interdite. Ouais. On va s'arrêter ici. Bi'inillahi ta'ala. Et nous évoquerons la suite des adorations avec leur argumentation et leur explication dans le prochain cours. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.